Le Revenant, chapitre 4. Le patron avait demandé un passeport pour l'Espagne. Ce passeport était rédigé au nom de M. Benjamin Sylvain, né à Genève en 1889. Le père de ce M. Sylvain avait été le premier commanditaire du Levant au temps du grand-père et Benjamin Sylvain, à qui M. Jules Bardaillan servait de tuteur, lui avait laissé ses papiers avant de disparaître d'étrange façon. Il était venu un soir chez les pavillons, il avait joué du violon pendant une heure, puis il était parti, leur confiant son instrument et son portefeuille, en assurant qu'il viendrait rechercher tout cela le surlendemain. Il avait paru étrange, exalté, un peu fou. On l'attendait encore. Les parviandes parlent souvent de ce mystère, le seul drame de la famille dont la famille était témoin. Quand il eut changé d'identité, Robert considéra que sa vengeance était en bon chemin. Il avait mis une perruque, ou plutôt une moumoute, fort bien faite, qui dissimulait sa calvitie, sans le déguiser. Enfin, il était muni de deux cannes d'infirme, à forte béquille, de cornes noires et à bout de caoutchouc. La frontière franchie, il voyagea par étapes. Et il s'arrêta enfin dans une petite ville qui semblait un décor pour Carmen. Il ne marchait plus qu'en s'aidant de ses cannes. Et devant l'hôtel auberge qu'il choisit, les garçons durent se précipiter pour le sortir de la voiture. « Rhumatisme, expliqua-t-il, grâce à son lexique franco-espagnol qu'il avait étudié en cours de route. Un bon monsieur, être malade et qui désirait se reposer. » Les médecins lui avaient recommandé le soleil. Il cherchait une petite maison où il pourrait passer de longs mois. L'aubergiste lui en indiqua une qui appartenait à sa propre belle-sœur. La maison plut à Robert. Elle était isolée, meublée pauvrement, des chaises de couvent, des images religieuses, des rideaux de coton blanc. Quatre cellules au parquet luisant, au mur crépi à la chaux, et un jardin poétique. Il s'installa tout de suite. Un petit garçon de l'auberge lui servirait de valet de chambre. Et pendant 3 semaines, il resta là, sans sortir, à ruminer son plan. Il ne quittait la chambre où il méditait, que pour le jardin, où il restait étendu sur une chaise longue. Une seule vision, celle de Louise, pâmée dans les bras de Lucien. Et quand l'image se pressait jusqu'à l'hallucination, il en éprouvait un plaisir âcre. Pâmée avait tout organisé, sans doute. Il était le principal coupable. Louise obéissait. Voilà, c'est s'asservir en femme de beau mal. Donc il fallait le punir, lui avant tout. Mais la punition devait être savante, pas de celles qui sont du dictionnaire courant, comme l'assassinat. Non, non! Une vengeance qui lui prendrait des mois et des mois, au cours desquels lui, le bafoué, connaîtrait l'ivresse de sentir le plus fort, le maître du jeu. Il loua la maison pour 3 ans, puis il alla en Allemagne, en Russie, en Belgique, et revint à Paris avec une pacotille de maroquinerie. Il surprit les amants tout de suite. ayant laissé ses bagages à la consigne, il arriva, les mains dans les poches, rasa les murs de la boutique, s'effaça et risqua un regard. Louise confectionnait des étiquettes. Lucien, debout devant elle, et croyant qu'il la cachait entièrement, lui caressait le bras. Elle souriait, chatouillée. Alors il dut lui dire quelque chose de tendre qui la rendit grave soudain. Alors Robert tourna le bec de canne et s'écria joyeusement « Bonjour, monsieur et madame !» Oh, des cris de surprise. On s'empressa. Mais pourquoi n'avait-il pas prévenu de son retour? Oh, ben, je devais rester encore 3 jours en Belgique, mais ma foi, je m'ennuyais trop. Il donna des nouvelles de ce voyage. Il y avait des heures à gagner. 3 ou 4 déplacements de ce genre, secrets, à cause des concurrents et des difficultés douanières, et il pourrait se retirer. Mais nous ne resterons pas toujours accrochés ici comme des moules à leur rocher. Mais d'abord, nous chercherons une villa aux environs de Paris, une cabane. Oui, nous l'appellerons la cabane. On commencera dimanche prochain, voulez-vous? Allez, départ à 9h. Et dès lors, il tourna au petit bourgeois, douillet, rondouillard et jouisseur. On ne se jouait plus guère avec lui. Il s'absentait souvent. Mathilde trouvait qu'il avait une bonne tête avec son lorgnon noir. Après chaque repas, il sirotait 2 ou 3 verres de fine champagne. Ce voyage l'avait transformé. Il chantait en se rasant et débitait les galanteries aux clientes. Il ressemble à son grand-père. Raillait Louise au comble de ses voeux, car elle pouvait avoir Lucien bien à elle, des demeures, des heures entières. Là, là-haut. Et la petite vendeuse soudoyée faisait le guet. Et Robert, l'observant, lui disait « Mathilde, je vous augmente 15 francs de plus par mois. Vous êtes contente ?»« Oh oui, monsieur Maillon. Je tiens à ce qu'on soit content autour de moi. Et puis, vous m'êtes sympathique. Allez, comptez sur moi. Entre nous, monsieur Bailey, prétend que vous n'êtes pas sérieuse. Oh non, mais des fois, il cherche, monsieur Bailey. Oui, c'est mon avis. Mais tranquillisez-vous, jusqu'à présent me l'informer, c'est moi qui commande. Et je m'intéresse à vous, ma petite Mathilde. » Et il précisa, parce que je m'aperçois bien que vous êtes pour rien, moi, je comprends que je suis pour vous, à votre place. » Il interrompit mélancolique. « Que voulez-vous, Mathilde? Vous êtes jeune, et vous savez que parler veut dire. J'aime madame. Eh oui, je l'aime. Alors, n'est-ce pas, on est lâche. » Chapitre 5. Robert acheta à tempérament une villa sur les bords de la Seine. Le 14 juillet, tombant cette année-là un lundi, les pavillons résolurent d'aller du samedi au mardi dans leur maison de campagne. Babet fut confié, fut invité, naturellement. Dès qu'ils arrivèrent, ils se réfugiaient, Robert en vieux pêcheur à la ligne, avec un panama défoncé, des bottes en crâne grasse et un veston de coutil. Lucien en joueur de tennis, pantalon blanc, chemise à col évasé. Louise en alpiniste. Guêtres lacées, jupe courte, feutre tyrolien. Les deux amants faisaient de longues promenades, pendant que Robert trempait sa ligne dans l'eau bavarde de la Seine. Cette fois, il les quitta tout de suite. Oh, il tombait une pluie fine, propice, affirmait-il, à la pêche. Louise et Lucien s'enfermèrent dans le salon humide, au parquet grignoté par un éternel et imprenable mulot. Ils avaient passé leur costume et hâle d'alpiniste, et l'alpiniste, le front aux vitres, guettait une éclaircie, pendant que le joueur de tennis liaisait vaguement un journal. L'éclaircie se produisit vers 4 heures. Leur goûter entassé dans la musette qui servait à ces excursions, ils s'évadèrent. Amoureux jusqu'à l'imprudence, Louise inquiétait Lucien. Prends-moi par le bras, grosse bête. Et même, oh, si nous voyions, c'est un geste gentil, un geste fraternel. Il verrait que du feu. Oh, je te jure qu'il devient tout à fait raplapla. Bon homme, tu sais. Et toujours de l'alcool. Oh, après, ils s'endorment derrière sur lorgnon. Ah, si je ne savais pas. Et ils s'enfonçaient dans les routes molles, sous les tilleuls en larmes. J'aime la nature, reprit Louise, mais si je ne savais pas, je crois bien que je mourrais de tristesse. En revenant, ils rencontrèrent le mari qui rentrait trempé et bredouille. On le plaisanta. Il fit le dos rond, assuré qu'il prendrait sa revanche et que la guigne qu'il avait poursuivie était lancée du mieux que j'ai pu. Oh oui! Louise, pour effrayer son amant, s'écria: voilà, nous aurions pu te tromper. Ça t'aurait rapporté 20 kilos de poisson. Pavillon éclata de rire. Oh, pour une idée, c'est une idée. Il se déclarait satisfait. La cabane était bien un peu humide, mais on la sécherait. Et il s'occuperait de potager. Il venait de trouver un magnifique emplacement. Mais il n'y a plus que cela qui me plaise. Je ne tiens pas en place ici. Que voulez-vous? Votre arrière-grand-père était un cutéreux. Je me retrouve dans mon élément. Après le dîner, il proposa une partie de canotage. Tu es fou, protesta Madame Parvillan. Pas une étoile. Il va pleuvoir encore. Mais reste si tu veux. Moi, j'entends profiter de la campagne. Pour le peu de temps que nous avons à y rester, j'ai des fourmis dans les jambes. Lucien, tu m'accompagnes? Oh, j'aimerais autant pas. Merci beaucoup. Nous avons pris l'air cet après-midi. Oui, mais tu dormiras mieux après. Allez, ouste. Oh, si ça peut te faire plaisir. À la bonne heure. Il fait noir comme dans un four. de trop bon dans tous les bois, dans tous les trous. J'aime un homme de poche. Écoute. Allez, en route. Louise, ça ne te dit rien? Oh non, par exemple. Allez, réchauffe-nous un peu de café. Oh, si j'avais su, j'aurais emmené la bonne. Rien ne m'embête plus que de moudre du café. Vous aurez du chocolat. Soit. Elle tendit un front mécontent au baiser de l'époux, et pourtant elle s'attendrit de les voir partir, si bons amis. Elle les accompagna jusqu'à la grille, et prise d'un remords, elle confectionna du café pour Robert. Depuis Lucien, elle supportait mieux son mari. Elle se prenait même pour lui d'une sorte d'affection bourrue à base de pitié. On ne l'impressionnait plus. On eût dit qu'il s'avouait vaincu. Il cédait la place. Tout était bien. Selon le rite qu'elle avait institué, elle passa dans la chambre de Lucien et couvrit de baisers son oreiller. Ce pauvre chéri s'endormirait sur ses baisers. Puis elle rentra dans le salon et elle attendit. Dès qu'il eut mis le nez dehors, Lucien se lamenta. Oh, une sale blague, on y voit goutte. Tu vas nous flanquer à l'eau. Ah, je ne canote pas bien? Si. Alors, je promenais sur l'eau la nuit. C'est une volupté, tu verras. Allez, ne tombe pas. Oh, j'ai dû marcher sur un chat. Sur le chat. Oh, ils sont moins bêtes que toi. Rentrons, vieux, rentrons. Mais jamais de la vie. La promenade nous patronne nous prendrait pour des poules mouillées. Ah, poule, j'en sais rien, mais mouillée, oui. Une petite brume de rien du tout. Ça glace les os. Tu as peur? J'ai peur de m'enrhumer. Oh, ça rhume pas la campagne. Tu m'en remercieras plus tard. Tu prends l'habitude. Ce qui est chic, c'est la forêt, la pêche au flambeau. Oh, tu connais pas ça. Tu connais rien. Moi, mon petit, si tu veux le fond de ma pensée, de mon cœur, j'en ai assez de la maroquinerie. Pas un mot à Louise, oh. Mais le magasin, oh, pff, plein le dos, ma vieille, plein le dos. Et du boulevard aussi, tout ce bruit, toutes ces lumières et ces rastas. On ne peut pas vivre là-dedans plus d'une vingtaine d'années. Je tiens pas à crever. La vie est bonne. Il s'arrêta. Ah! Ah, le canot est amarré ici. Attends que je trouve le chêne. Ne bouge pas. Malin gauche comme tu es. Là, assieds-toi. Oh non, inutile de barrer. Tiens-toi tranquille, seulement. Allez, tu y es? Il sauta à son tour, prit les rames, et la barque glissa sur l'eau sombre. Alors, est-ce agréable, oui ou non? Oui, assez. Et jusqu'où irons-nous? Jusqu'où tu diras. S'il y avait des étoiles, ça serait plus beau. Je les commanderai pour la prochaine fois. Quel silence! Ah oh oui, on respire. Et Raoul caressait à peine l'eau du bout de ses rames. Le canot descendait le courant. Lucien restait immobile, comptant les secondes. Et tout à coup, il sentit que son ami le regardait fièrement et fixement. Et son regard lui fut insupportable. Il essaya de chanter et se tut très vite. Continue. Non, 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 elle est bête cette chanson. C'est ma femme qui te l'a apprise? Ta femme? En voilà une idée. Il faut que tu me dises quelle chanson tu tiens de Louise. Mais aucune. Qu'est-ce qui te prend? Pas même je t'adore? Oh, je comprends pas. Vraiment, écoute. Écoute. Si elle nous voyait en ce moment, auquel elle ne trouverait-elle pas la plus sale gueule, hein? Pardon, je veux croire que tu plaisantes. Non, non, là, je ne plaisante pas. Voilà le hic. Alors, tu m'offenses? Bon. Mais tu sais quelles sont mon affection et ma reconnaissance. Reprenons, Robert, rentrons. Je t'ai regardé pendant le dîner. Tu n'as pas pour manger. Tu as bu 4 petits verres. T'es pas dans ton état normal. Oui, me saoule. C'est bon. Ça donne du cœur au ventre. Oh, j'en avais besoin. Mais pourquoi? Mais pour ça? Il lui envoya une gifle à toute volée. Ben, vacilla, se ressaisit, râla de prendre son adversaire à la gorge, en vain. Au secours! Cria-t-il à force de ses erreurs. Au secours! Alors Robert le suit aux cheveux, et tandis que l'autre se démenait dans le vide, il laboura le cou de ses ongles. Puis il se laissa couler, un remous et plus rien. Au secours! Hurla Robert. Au secours! Il y a quelqu'un qui se noie! Venez vite, au secours!